Je suis un drogué, je suis un voleur. J'ai soif d'amour et de bonheur. Serais-je fier d'avoir une maison ou passerais-je l'hiver en prison? Est-ce mon destin ou ma malédiction? J'en sais rien. J'ai seulement besoin d'affection. T'as fait samedi de rire, moi, samedi de jouir. Jour de ta présence, avec sagesse, avec tendresse, comme une caresse. Bienvenue parmi les souverains anonymes. Et aujourd'hui, tu es notre princesse.
Bonjour, c'est Pauline Martin. Je suis en ce moment au 800 Gouin Ouest, parmi les gars les plus sensibles, probablement, de l'île de Montréal, c'est-à-dire les souverains anonymes. Et je suis heureuse d'être là.
Aujourd'hui, PN,
ça nous dit de rire.
Smoke me.
Reine du rire, reine du bleuet.
Pauline Martin.
Bienvenue aux Souverains Anonymes.
Bonjour Pauline, soleil de ma vie.
Salut drôle de Pauline, moi c'est Laurent.
Moi c'est Alain.
Stéphane.
Ricky.
Ronald.
Bonjour Pauline, mon nom c'est Robert, alias Tibab.
Moi c'est Michel.
Moi je m'appelle Yvon.
Bonjour Pauline, moi c'est Jean.
Lapointe.
Bonjour Pauline, moi c'est Réal.
Salut Lorraine Durir, moi c'est Nadim.
Moi c'est Ronald.
Bonjour Martin, salut Pauline, c'est François.
Moi c'est Bruno.
Salut c'est Roger.
Salut espèce de belle taquine, moi c'est Paul.
Bonjour Pauline, moi c'est Jimmy.
Bonjour Pauline, je t'aime.
Moi c'est Raymond, si on se voit, tu me paieras un petit remontant.
Nous souverains anonymes, nous assumons tous nos peines. Noir et blanc dans le même système, derrière des murs. Café crème.
Pauline. Mon nom c'est Valdez.
Bonjour.
Je suis ravi de t'avoir ici. Pauline, je voudrais d'abord te dire que nous recevons en toi une personne à laquelle beaucoup de Québécois s'identifient, se retrouvent et se reconnaissent avec bonheur. Pour nous, tu n'es pas une superwoman. Comme se plaisent certains journaux à l'écrire, pour nous les souverains anonymes, tu n'es une super femme, mais une femme super.
C'est super.
On sait très bien, Pauline, tu viens de Chicoutimi. Quel genre d'enfance et quel souvenir tu en gardes?
Il y avait des grands bouts de plates. Non, moi, je m'amusais beaucoup à des jeux de garçons, quand je l'avoue. Je dois l'admettre. J'avais surtout des amis de garçons. Ça a beaucoup inquiété ma mère, d'ailleurs. J'aimais jouer au ballon-pied. C'était surtout mes activités, tu vois. Alors, j'étais... À 4 ans, je suis arrivée à Chicoutimi. Parce qu'en fait, je dis que je suis née à Chicoutimi, mais mon père m'a pondu dans le bas du fleuve. Mes parents m'ont pondu dans le bas du fleuve, puis ils ont ramené le nid après à Chicoutimi. effrayée jusqu'à là-bas. Mais non, ça a été une enfance relativement heureuse, je dirais, avec une adolescence relativement perturbée.
J'ai l'impression.
Veux-tu des détails?
J'ai l'impression, parce que la lueur qui est sous le visage, là,
la lueur
depuis à l'enfance.
Une belle enfance? Oui, si tu veux. Mais pas tout le temps.
Non.
Non.
Merci beaucoup, Mathilde.
Ben, merci à toi.
Bonjour, Pauline.
Bonjour.
Je m'appelle Gilles.
Bonjour, Gilles.
Au nom du groupe, à mon nom personnel, je te souhaite bonjour à Souverain Anonyme. Voici ma question. Pauline, est-ce que pour toi, c'était très important de faire ta carrière de comédienne en arrivant à Montréal?
Oh mon Dieu. Je suis venue à Montréal, c'est bien bizarre, hein, parce qu'il y a bien du monde qui me voyait comme comédienne avant que moi je me voie comme comédienne, parce que j'ai commencé en faisant des beaux-arts. Et puis ils m'ont mis dehors. Alors en fait, je me suis rendu compte que j'étais mise dehors. J'ai étudié un an au cégep de Jonquière. Je suis arrivée à l'exposition de fin d'année. J'avais pas un seul tableau, tu sais. Alors je me suis dit, ça doit vouloir dire quelque chose. Alors je suis allée voir le directeur. Là, il m'a annoncé que j'étais à la porte. Alors ça m'a un petit peu déprimée. J'avais une moto, vois-tu, dans ce temps-là. Alors, j'étais partie avec ma moto, me promener. Et dans ce temps-là, je partais avec ma moto, puis j'allais voir des chenilles, parce que mes parents voulaient pas qu'on ait un chien, puis moi, je voulais un chien, fait que j'allais faire le tour des chenilles, tu sais, chacun chacun sa drogue. Moi, c'était les chiens. Après ça, mes amis autour de moi ont décidé d'aller étudier en théâtre à Sainte-Thérèse, au collège Lionel Groulx. En fait, j'ai suivi mes amis. C'est après... Pas pendant que j'étudiais le théâtre, après quand j'ai commencé, qu'un jour je me suis dit que j'aimais ça, faire ça. Parce qu'en fait aussi, je voulais pas venir à Montréal. Ça me tentait pas d'être dans une grande ville. Tu sais, je viens de Chicoutimi, c'est une petite place. Ben j'avais peur de la grande ville, les autos, tu sais, t'entends toutes sortes d'affaires, hein? Comment?
Le journal est plus épais.
Le bottin aussi, tu sais, le bottin de téléphone est plus épais.
Le sommeil, surtout à Montréal, c'est plus dur de dormir qu'en campagne.
Comment qu'on s'habitue, par exemple? Ouais. Là, je dors très bien. À part de temps en temps.
Salut, Pauline. Moi, c'est
Bonjour.
Laurent. Sans dire que tu une travailleuse sociale ou quelque chose dans ce genre-là, tu as une approche nettement sociale dans tes numéros. Tu peux-tu dire que tu es un artiste engagé dans...
Je suis bien contente que toi, tu l'aies remarqué. Moi, je le sens comme ça. Quand je fais des personnages, ce que j'essaie toujours de faire, c'est d'aller jusqu'à la vulnérabilité de cette personne-là. Parce que ce que je cherche à toucher chez les gens qui regardent ou qui écoutent, c'est de toucher leur vulnérabilité. C'est ça qu'on veut que les gens viennent chercher, que ce soit de la peinture ou n'importe quoi, ou des beaux paysages. Moi, c'est ça que j'essaie de faire. Et pour ça, je dois aller chercher dans chacun des personnages, comme par exemple quand je fais Thérèse. Tu sais, Thérèse. Moi, Thérèse, je l'aime, tu comprends? Fait que c'est vrai que j'essaie de mettre toujours une dose importante de ça dans mes personnages, mais ça passe des fois peut-être trop inaperçu. Puis je te dirais que maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est de l'accentuer, cet aspect social-là de mes personnages. Maintenant que moi, que j'ai fait le tour, que tout le Québec sait que je peux me changer la face en grimace, n'importe comment, ça, mettons que j'ai passé ma badge là-dessus, ouais. Tu sais. Alors, j'aimerais ça aller plus loin dans ce sens-là, que le monde se mette à écouter plus qu'est-ce que mes personnages ont à dire.
Trouves-tu que c'est plus dur pour toi que comme te servir de l'humour comme ce que il y en a qui servent de la chanson, par exemple, tu sais?
Ben, je vais dire...
l'humour, peut-être qui vu à cause de l'humour, le message des fois peut-être est caché, il est plus dur à...
Ouais, mais tu sais, il y en a quelqu'un qui a déjà dit « L'humour est le petit frère de la vérité. » Puis je pense que par l'humour, on peut des fois aller plus loin. Et c'est ce que je veux essayer de faire. C'est vrai qu'il y aura toujours du monde qui veut pas entendre et qui veut pas voir. Tu leur dirais sérieusement, puis ils comprendraient pas pantoute pareil. Mais il y a une façon peut-être de faire l'humour. Si tu prends Yvon Deschamps, mon boss, Yvon, il est allé loin il y a quelques années dans ses monologues. Il a brassé. Il sait, tu sais. Mais il est allé loin pas mal dans ce qu'il faisait.
Salut Pauline, moi c'est Nadine.
Bonjour.
Pauline, on a remarqué que dans tes sketchs, tu aimes toucher au tabou. Dans ton milieu, est-ce que toucher au tabou n'est pas un tabou en soi?
Oui, ça dépend de ton producteur, tu sais. Par rapport à ça, je dirais que... Il y a des affaires que je peux pas dire, effectivement, que je peux pas toucher. Je te donne un exemple. À un moment donné, dans Samedi de rire, il y avait un rôle de femme saoule, de gars sous à jouer. Tu sais, c'était un gars dans un bar, puis le gars qui est au piano, il sait pas trop quoi jouer, puis il dit, moi, j'ai des idées pour toi. Il dit, en jasant, t'écoutes les clients, puis ça te fait penser à des tunes, puis tu pars. Bon. Fait que moi, je dis à ma gang, parce qu'on avait toujours un petit peu de misère à trouver des rôles de femmes. Les auteurs étaient plus inspirés par des rôles d'hommes. Moi, j'ai dit, je peux faire une femme saoule. Ils ont dit, oh non, le monde aime pas ça, voir une femme saoule. Moi, j'ai dit, je te garantis qu'elle va être sympathique, cette fille-là. Ça a très bien passé. Il y a des façons de les dépasser, ces tabous-là. Ça fait des années qu'à la télévision, on va rire des homosexuels hommes. Mais tu verras jamais des sketchs sur des lesbiennes. Ça se fait pas. Le monde veut pas en entendre parler de ça. Il y a bien des choses à faire là-dessus. Tu sais, comme moi, je te dirais que sur la relation homme-femme, j'irais bien plus loin que ça des fois. C'est sûr que ça pourrait choquer dans le sens que les gars ont peut-être pas le goût de se faire dire qu'ils sont bien bébés des fois. Mais en même temps, c'est, je pense que ça peut faire rire, puis en même temps, ça peut soulever des questionnements, puis des discussions.
Salut Pauline, moi c'est Alain.
Bonjour.
Tu as déjà dit que la femme n'a pas la même façon de faire l'amour. Non, l'humour. En quoi consiste cette différence?
Par rapport à l'humour au féminin, moi j'ai toujours pensé que ce qui est drôle, que ce soit pour des hommes ou pour des femmes. C'est juste que c'est pas les mêmes sujets qui nous touchent. Il y a des affaires que les filles vont trouver bien drôles que les gars trouveront jamais drôles. Tu sais, c'est les sujets. Si tu le fais bien, les gars vont rire autant que les filles. T'sais, c'est pas une question de façon de faire l'humour. Moi, j'ai pas eu de problème, en tout cas, avec ça. J'ai travaillé toujours avec des gars, autant gars que filles. Puis, on n'a pas besoin de s'exprimer pendant des heures, c'est sur ce qui est drôle et pas drôle. Ça arrive quand même, merci beaucoup, de rencontrer dans le milieu des hommes qui ont plus de misère à travailler avec les femmes. Puis moi, je me souviens d'il y a 10 ans, on avait un réalisateur à un moment donné sur une émission d'humour. Je te jure, c'était insultant, mais là, qu'est-ce que tu veux faire? Quand c'était des gars qui étaient en face, puis ils écoutaient la répétition, tu sais. Puis là, moi, j'étais avec une de mes amies, Michel Delaurier, on arrivait pour faire notre sketch, puis là, il se prenait quasiment un journal pour lire, tu sais. Ça, c'était un petit peu blessant. C'est comme si lui, dans sa tête, il y en avait comme lui encore il y a 10 ans, tu sais, des filles, c'est pas drôle. Fait qu'on va aller prendre un café, tu sais. Mais c'est beaucoup moins comme ça. Il y en a de moins en moins, heureusement.
Tu as déjà réussi à faire passer un sketch sur Shirley, une fille saoule à Radio-Canada, ouais. Même si c'est, on va dire, c'est tabou, c'est contre leur code d'éthique. Est-ce que toi et ton équipe, vous devez faire attention des fois, pas vraiment d'en passer des trop vite, puis... Comment je pourrais dire, vous faire tomber dessus pour ça, là?
Je vais te dire que c'est une des affaires que je trouve les plus dures, qui me fait le plus... C'est parce que nous, nos textes, on est toujours obligés de les faire lire à Radio-Canada, avant. Alors, souvent, ils vont nous censurer beaucoup. Je dis beaucoup. Ils n'aimeraient pas que je dise beaucoup. Mais nous, on est le samedi soir à 7 heures. Si j'avais la case horaire après le hockey, il m'en permettrait déjà plus. Mais cela dit, j'ai pas compris cette année ce qui s'est passé parce que si vous avez regardé l'émission de Marc Drouin le dimanche soir à 7 heures, ils en ont sorti là-dedans qu'il n'y aurait jamais passé dans mon émission à moi. Puis c'était le dimanche, puis c'était à 7 heures. Moi, ça me faisait dresser les cheveux sur la tête.
Elle n'est pas restée longtemps, cette émission?
Elle n'est pas restée longtemps, mais assez longtemps pour que je me pose des grosses questions sur qui c'est qui censure, puis on censure quoi, tu sais. Nous autres, ici, souvent, ce qu'on a, c'est un problème d'argent. On attend tout le temps après l'argent des institutions. Et les institutions prennent beaucoup de temps à le donner, puis ils mettent énormément de conditions. Alors que quand tu fonctionnes, par exemple, aux États-Unis, eux autres, tu sais, ils ont de l'argent. Ils ont 225 millions de possibilités de téléspectateurs, tu sais. Alors, ce qu'ils font, c'est les producteurs privés, ils ont plus d'argent. Eux autres, ils engagent leurs auteurs, ils tournent, puis après ça, ils vont voir un diffuseur, puis ils disent « Voulez-vous notre show ou vous le voulez pas? » Mais là, ils ont assez peur, eux autres, de manquer une bonne affaire, que oui, ils l'achètent. Puis là, ils peuvent plus rien faire, c'est enregistré, tu sais. Alors que nous, on fonctionne pas comme ça parce qu'on n'a pas assez d'argent. Et c'est une chose que je défends. C'est-à-dire retourner au respect des créateurs, au respect des auteurs. On en parlait, Mohamed et moi, ce midi. Retourner à la liberté d'expression aussi, tu sais, parce que ça finit par faire... On dit niveler par le bas, là. Tu sais, ça finit par tout se ressembler, tu sais. On vous en donne, mais vous dites pas ci, vous dites pas ça, vous faites pas ci, vous faites pas ça. Fait que là, ça fait une télévision un petit peu plate, tu sais.
Ça va super gros, Pauline.
Fait plaisir. Pas moi, fait plaisir de dire ça.
Bonjour, je m'appelle François.
Bonjour.
Salut, Pauline. Tout bon acteur doit jouer de la comédie. Est-ce que toi, tu penses aussi que c'est plus difficile de jouer des rôles comiques que dramatiques?
Ben, je te dirais qu'on le dit beaucoup, en tout cas. J'ai vu des bons acteurs dramatiques jamais être capables d'être comiques. Et j'ai vu des bons acteurs comiques pas mal toujours être capables d'être dramatiques. Tu sais, parce que... Il y a une grosse différence. La comédie, c'est vraiment une technique. Tu sais, ce qu'on appelle le timing. Quand tu montes une pièce réaliste dramatique, tu fais des temps pendant lesquels, tu sais, mettons, tu finis ta phrase, tu fais un temps pendant lequel tu laisses au spectateur deviner ta psychologie. Mais là, en comédie, Tu t'attardes pas à faire de la psychologie. Il faut que ce soit instantané. Exactement. C'est exactement ça. Il faut que ce soit instantané. Il faut que le monde comprenne tout de suite. Et ce qui est comique, c'est les revirements en comédie. C'est, tu sais, par exemple, moi, je suis en train de te parler, je fais, hein, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, c'est toutes des petites affaires rapides. Tu sais, c'est toutes des, c'est ça qui amène le rire. C'est l'élément surprise est très important. Et ça, t'as des comédiens qui l'auront jamais. Moi, je me suis vu, m'amener une demi-heure de temps, essayer de montrer à une fille c'est quoi un double take. Tu sais, un double take, c'est, mettons, je te regarde, tu sais, là, je fais ça de même. Tu sais, mais ça, va donc y expliquer. T'es là, tu décortiques, mais tu fais ça de même. Mais non, là, ça devient con, tu sais, parce que c'est trop compliqué à expliquer. Tu l'as ou tu l'as pas, là?
Salut, Pauline, mon nom, c'est Michel. Entre jouer seul et jouer avec un autre avec quelqu'un d'autre, pour toi, ça exige-tu, ça n'exige-tu pas une certaine gymnastique mentale?
Moi, j'ai joué un show tout seul, Bachelor, pendant 4 ans. J'étais 2h20 sur scène, tout seul. J'ai joué dans des salles parce que c'était un show qui était comique un bon bout de temps. Après ça, ça virait vraiment dans le dramatique. Puis il y a des salles qui voulaient pas. Eux autres, c'était « je veux rire encore ». Mais là, qu'est-ce que tu veux, mon personnage était bien dramatique, ce qu'il avait vécu, puis c'était écrit de même, là. Tu sais, je broyais à un moment donné. Okay. Je me suis vue des soirs, là, ah, que je m'ennuyais de ma mère, ça avait pas de bon sens. Parce qu'ils voulaient pas, eux autres, tomber dans le dramatique. Là, tu te sens vraiment tout seul, parce que t'as pas le regard complice de l'autre acteur, ou bien les petites passes en coulisses quand tu sors en disant « hey, ils sont pas faciles à soir », ou bien on les lâche pas.
Salut, Pauline, je m'appelle Stéphane. Pourrais-tu nous dire, en quelques phrases, tes émotions que tu ressens quand tu es seul sur une scène et que tu es devant ton public?
Bon, essayez. Il y a une sensation bien spéciale que j'ai eue un jour, puis je vais te dire, ça m'a fait peur. J'ai jamais sur une scène bien dure. C'était dans un show, le premier gros show que j'ai fait, ça s'appelait Wouf Wouf, c'est une pièce de Yves Sauvageau. J'étais sur scène, puis on était au Théâtre Jésus, sur la rue Bleury. Puis j'ai tellement eu l'impression que j'avais tout le monde dans mes mains, comme ça, là, que ça m'a fait peur. Je me suis dit, dans le fond, je pourrais lui dire n'importe quoi. Tu sais, là, ils sont tellement suspendus à ce que je fais. Et là, je me suis rendu compte de la puissance de la communication comme ça, là, tu sais, de ce jeu-là. Et j'ai eu peur. Et ça m'a donné une leçon. Plus jamais j'ai accepté de faire n'importe quoi. T'sais. Je me suis dit, c'est trop important ce qu'on charrie. Ça m'amène à me dire que, par exemple, au niveau de la publicité, j'en fais pas beaucoup. Parce que me servir de ma capacité de rendre les gens vulnérables pour leur passer leur passer n'importe quoi, je suis pas capable. Je vais avoir tendance à accepter des messages d'intérêt public ou des affaires qui ont une connotation un peu plus sociale. La sensation la plus forte que je ressens, une fois je l'avais ressentie aussi, c'était dans Bachelor que je jouais tout seul. C'était de l'amour. C'était carrément de l'amour. J'avais le goût, je vais peut-être trouver ça ridicule, mais j'avais le goût de toutes les prendre, toute la gang, les 700 qui étaient là, puis de les bercer. Tu sais, c'était tellement... Non, mais c'est vrai, c'est une sensation d'amour. C'est une communication parfaite, totale et privilégiée.
Nous souverains, anonymes, nous sommes capables de réflexion, capables de rêves et d'illusions, d'amour, passion et sensation.
Vous écoutez l'émission Souverains anonymes, les détenus de Bordeaux reçoivent Pauline Martin, comédienne.
Salut Pauline, ça va moi.
Vu qu'on sait que t'es une femme bien occupée, que tu faisais des affaires en même temps, si t'arrives pas des fois d'en oublier des bouts, tes patates sur le feu ou ton gars qui est à pratique d'hockey qui a pas été clé pour rentrer pendant que toi t'es en train de faire une représentation.
As-tu appelé chez nous, toi? Ouais, ça, et ça m'arrive. J'en fais des pas pires, des fois. Ouais,
j'en ai... C'est
une petite casquette qui saute, des fois.
Non, ce qui m'arrive, des fois, quand je viens vraiment fatiguée, là, c'est comme si mon cerveau, inconsciemment, veut plus aller à une place. Puis, je l'oublie, tu sais. Mais moi, je sais très bien que je l'ai pas oublié. J'avais pas le goût d'y aller. Non, ça va m'arriver, mais je me suis organisée pour que du monde puisse me le rappeler une fois de temps en temps. J'oublie pas trop mes enfants. J'en ai 3, là. Jusqu'à maintenant, je les ai pas trop oubliés. Je vais te dire, j'ai moins tendance à oublier mes enfants qu'à oublier des affaires de la job.
Comment te sens-tu? Comment réalises-tu, disons, que tu vas être catalogué parmi les grands, là. Je veux dire, au même place que, par exemple, Phil Leclerc ou Deschamps, tu sais, ou, du côté des femmes, là, parmi les grands, parce que t'es vraiment un classique de la comédie, tu sais, pour notre peuple à nous autres de Québécois, tu sais. Comment te sens-tu de ça?
Ben, te dire que je le réalise, je m'entends pas trop penser à ça, parce qu'à un moment donné, ça te met une pression sur les épaules, tu sais, tu dis, je suis grande, faut que je sois grande. Non, je pense pas vraiment à ça. Chez nous, j'ai 3 trophées. J'en ai un qui vient du Gala des Gémeaux pour l'interprétation que j'avais reçue avec Dominique Michel, Yves-Jacques et Patrice Lécuyer pour Bye Bye 85. J'en ai 2 Metro Star. Et Metro Star, c'est deux trophées de popularité. Puis dans le fond, tant que le monde t'aime, tu vas travailler. T'sais, parce qu'il y a ça aussi qui compte. Si tu t'aimes faire ton métier, mais que t'es pas engagé, bon, ben là, t'as comme un problème. Et l'amour du public, c'est ça ton gage, que tu vas avoir de la job encore. Et ça me touche, cet amour-là. Puis moi, le monde que je rencontre sur la rue, ça, c'est un grand bonheur d'être un comique. Parce que moi, le monde, il me rencontre sur la rue, que ce soit à n'importe où, là, je fais mon marché, le monde part à rire en me voyant. C'est quel bonheur! Je peux pas être de mauvaise humeur.
C'est sûr. Puis, suite à, évidemment, à tout le stardom qui vient avec ça, là, est-ce qu'il y a pas un producteur qui t'aurait pas approché peut-être pour porter ça à l'écran, tous tes personnages, là, comme Ding et Dong, par exemple.
Ouais, mais moi, je vais dire que je vais bien lentement dans la vie. J'ai pas envie de me faire prendre par quelqu'un à un moment donné, parce que c'est ça qui arrive. Quelqu'un qui veut faire de toi une star internationale, il dit, bon, moi, je te prends, je te garantis que dans 2 ans, t'es sur tous les écrans, mais tu fais ce que je te dis. Moi, comme je voulais des enfants, puis je te donne un exemple, Bachelor, à un moment donné, j'avais eu une offre pour aller le jouer à Paris. C'était une belle offre parce que c'était au théâtre de Patrick Dewaere et Depardieu. Il y avait un petit théâtre qui s'appelait Le Splendide à Paris. Moi, j'ai dit non parce que je voulais un 3e enfant. Pas besoin de te dire que toute ma gang dans le métier, ils ont tout dit, elle est folle, la maudite, ça n'a pas de bon sens. Mais moi, j'avais décidé que je voulais 3 enfants rapprochés. T'as bien magané après ça, mais ça fait rien. Je n'avais pas pensé avant. Je m'en suis rendu compte après. Mais je l'avais refusé à cause de ça. Et pour moi, ma vie est aussi importante que mon métier. Et pour tomber là-dedans, là, si tu veux vraiment faire une carrière vraiment, vraiment internationale, si c'est ça qui t'intéresse, là, c'est un don total de toi-même. Puis là, ta vie privée, ben, elle devient grosse demain. Okay. Puis ça, moi, ça m'intéresse pas.
D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, on t'aime beaucoup.
Salut, Pauline.
Bonjour.
Ben, je veux pas cacher mon admiration pour toi. D'ailleurs, j'ai voulu toujours te rencontrer face à face comme ça. Et le plaisir est grand pour moi aujourd'hui. Mais pour revenir au tabou, la prison, par exemple, on entend ça de l'extérieur. Et puis pour une grande artiste comme toi, hein, qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans ton entourage? Et puis toi-même, qu'est-ce que ça représente pour toi? Quel genre de préjugés? Enfin, si tu veux interpréter les gens aussi, suivant ce que tu entends, qu'est-ce que ça représente pour toi? Je voudrais que tu nous dises un peu.
Ben, les préjugés, ça vient en général, d'après moi, de ce que les gens ne reconnaissent pas en... Moi, la prison, pour moi, ça veut dire violence. Avant d'y être, et la violence pendant qu'on y est. Okay. Puis je pense qu'en sortir, c'est sortir de la violence aussi. Okay. Ça, c'est ma version de la chose. J'ai bien de la misère avec ça, les préjugés. Puis effectivement, je fais ce métier-là en partie aussi pour faire bouger les images. Moi, j'aime pas qu'on ait une image de moi. Ça me fatigue beaucoup. J'ai beaucoup aimé, je me souviens pas qui a parlé, là. Qui c'est qui a parlé de l'affaire de la Superwoman, là? Ouais, j'ai bien aimé ça. Parce que j'haïs ça que le monde... Tu sais, je me souviens, je te donne juste un petit exemple, une petite parenthèse. J'étais allée à une émission qui s'appelle Téléservice à un moment donné pour parler d'une cause que je parraine. Puis elle commence l'entrevue en disant... Pauline Martin a dit, comment faites-vous pour demeurer si équilibrée en ayant 3 enfants et faisant le métier que vous faites? Mais je dis, premièrement, qui vous dit que je suis si équilibrée? Oui. Qui vous dit que je n'ai pas braillé dans le char en stationnant tantôt? Mais je ne suis pas venue ici pour ça, là. Je suis venue parler d'autres choses. Et je pense que les gens veulent se faire des idées, puis ils veulent pas voir, percevoir ce qu'il y a en eux de violent non plus. Je pense que c'est ça qui est le plus violent. Okay. Parce que ce qui nourrit la violence, c'est le refus d'entendre, moi, je pense.
Je comprends.
Et les gens, souvent, devant un acte de violence, ne savent pas reconnaître le désespoir, parce qu'ils en ont, eux aussi, du désespoir. Ou s'ils n'en ont pas, quelque part, c'est parce qu'ils sont tellement bouchés qu'ils ne se rendent pas jusque-là, là, tu sais. Et c'est ça pour moi. Les préjugés, c'est de refuser de voir dans l'autre des choses qui sont aussi en nous.
entre le théâtre, la TV et le cinéma, pour lequel des trois ton amour est absolu?
Le théâtre, la télévision, le cinéma, c'est très différent. Le théâtre, c'est une énergie que tu portes au monde. Le monde est assis, ils ont payé leurs billets, ils sont mis propres, ils sentent bon du tour de bras, ils sont là, puis bon. La télévision, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup faire. C'est une technique... Tu vois, il y a une différence de jeu entre jouer théâtre, qui est beaucoup plus porté. Jouer télévision, déjà, si tu diminues l'ampleur de ton jeu, et cinéma, faut quasiment pas que tu joues. C'est vraiment uniquement de ressentir les émotions du personnage. Et c'est trois techniques différentes. Je viens à peine de découvrir le cinéma. Moi, je me trouvais pas bonne au cinéma parce que j'ai trop des grands yeux. Ça m'énervait moi-même de me voir sur l'écran. Tu sais, déjà, dans la vie, c'est impressionnant. Mais je trouve c'est un grand écran.
T'as aimé l'expérience, quand même, de France Grimaldi, Garibaldi?
Ah oui, j'ai aimé ça. Mais encore là, tu vois, cette expérience-là dans Jésus de Montréal, du personnage de... En fait, c'était plus ou moins... C'était plus une caricature du type Grimaldi. Mais déjà là, j'avais à jouer un peu plus gros. Pour répondre vraiment à ta question, je pense que c'est encore le théâtre que j'aime le mieux.
Bienvenue au théâtre. En commençant par faire de la radio.
Oui, c'est vrai.
Tu as déjà dit que si tu arrêtes de faire du théâtre, tu reviendrais à la radio. Puis, c'est quoi, qu'est-ce que tu aimes à la radio? C'est quoi que tu veux, le message que tu veux?
La radio, en fait, si j'en fais pas vraiment, c'est que je trouve qu'il y a trop de monde qui sont au micro qui n'ont rien à dire. Puis, moi, parler pour rien dire, ça m'énerve. Ouais. Alors. J'en fais pas pour ça. Il faudrait que j'aie un format d'émission où j'aurais bien de la liberté. Je n'ai fait, j'étais jeune, j'avais 16 ans, là, j'avais commencé à Radio-Canada, je continuais avec Joël Lebideau. Mais j'ai jamais vraiment développé ça, je l'ai jamais vraiment appris. Mais si je le refaisais un jour, là, ça serait dans un cadre particulier. Mais j'aime le médium parce que c'est un médium qui est sans artifice. Tu sais, je suis peut-être un peu tannée de me faire maquiller, de me faire déguiser. Ça a un bon côté aussi, la radio. Ouais. T'arrives comme t'es. Je vais en refaire sûrement un jour. Là, remarque, c'est une question de temps aussi, là. Ah,
ce n'est qu'une question de temps. Et je serai libre. Patience et attends.
Être sans pas.
Anonymes, nous assumons tous nos peines, noirs et blancs dans le même système, derrière des murs, trafic crème. Nous souverains, anonymes, nous sommes capables de réflexion, capables de rêves et d'illusions, d'amour, passion et sensation.
Vous écoutez l'émission Souverains Anonymes, les détenus de Bordeaux reçoivent Pauline Martin, comédienne.
Je pense.
On revient après cette pause.
Tu comprends, c'est le thème de la pièce, c'est l'honneur. Franchement, c'est une vieille valeur, ça n'existe plus aujourd'hui.
Les souverains anonymes, les détenus de Bordeaux reçoivent Pauline Martin, comédienne.
Bonjour Pauline,
bonjour.
Moi c'est Richard. Un très célèbre personnage est sans doute Jean-Luc Mongrain.
Lui-même est assez célèbre, tu sais.
Bon, à part la caricature personnelle que tu fais de lui, quel genre de message tu fais passer par ses monologues?
Le message... Non, Jean-Luc, écoute pas. C'est qu'il y a un côté, Jean-Luc, démagogue, tu sais, manipulateur, ouais. Un peu... Il aimera pas ça que je le dise, mais c'est quelque chose, moi, qui va peut-être quelquefois me choquer, me déranger. Ça rejoint un peu ce que je disais tantôt. C'est facile d'impressionner les gens, tu sais. Et c'est pour ça que dans la caricature que j'en fais, parce que cela dit, je l'ai rencontré, je l'aime bien, et je trouve qu'il mène parfois de très bonnes entrevues. Mais par moment, tu sais, quand... c'est pour ça que
quand je le fais, moi, Jean-Luc Mongrain, l'accent, je le mets surtout les yeux, là, les places où ça n'a pas de bon sens.
Ouais.
C'est un petit peu pour démontrer ça, tu sais. Ça va être quand je vais dire quoi tu coupes, puis là, je m'arrête. Mais c'est surtout pas quand je dis quelque chose. C'est simplement pour démontrer les mécanismes du personnage.
OK.
Uniquement. Mais j'écris pas les textes de Jean-Luc Mongrain, puis en général, au contraire, pour souligner la caricature, je sais pas si t'as remarqué, mais on utilise vraiment, en général, c'est des thèmes, là, tu sais, c'est des niaiseries, le papier de toilette d'un building gouvernementaux, ça va être vraiment des conneries.
Ouais.
Mais c'est pour démontrer que tu peux dire des conneries, puis avoir un pouvoir de conviction incroyable. Je suis pas capable de le jouer quand j'ai pas ma moustache, ma perruque, puis mon costume. Je te jure, je suis pas capable. Je l'ai pas dans mon auto.
Moi, je voudrais savoir qu'est-ce que Mongrain lui-même pense de ta performance.
Moi, je vais te dire, la seule affaire pour laquelle j'espère qu'il m'en veut pas, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Je peux plus le regarder sans penser à toi. » C'était pas volontaire.
C'est...
Ça va peut-être voler sa job.
Non, 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 je tiens pas. Quoi que ça,
ça va peut-être voler sa job.
Elle doit être payante.
Chère Pauline, c'est à ton tour. Imagine-toi, chère Pauline, ministre de la Culture du Québec.
Oh mon Dieu, Seigneur.
Tu reçois par la fenêtre de ton bureau un ex-détenu qui vient te présenter son projet de construire un petit théâtre dans une prison pour hommes. Alors, il te dit, Votre Honneur, pour inaugurer cet événement, je ne vois que vous dans le rôle principal de la pièce Roméo et Juliette. Si vous acceptez, Madame, de jouer Juliette, je serai votre Roméo. Dites oui, je vous en prie.
Ça ferait une Juliette comique, peut-être. En tout cas, Roméo, il rirait.
C'est pour parler un peu de l'histoire du 1%.
Oui, ben je vais te dire que si j'étais ministre de la Culture, c'est bien certain que j'accorderais une plus grande place à tous les moyens d'expression. Parce que quand on est allé rencontrer Robert Bourassa, le groupe de la Coalition du Monde des Arts, on était 8. Je disais que les artistes, et quand je dis les artistes, moi, j'inclus tout le monde, j'inclus toute l'expression artistique. Je trouve que c'est une énergie propre, non polluante et renouvelable, dans laquelle il devrait investir. Parce qu'au Québec, n'importe quel étranger qui vient ici, je parle des étrangers, ça doit être un fonds de colonisés qui parle, là, parce qu'on le sait, nous autres, qu'on est smart, qu'on est fin, mais il y a des étrangers, beaucoup, qui viennent et qui arrivent ici. Ce qui les frappe, c'est non seulement le talent des gens d'ici, c'est aussi la simplicité avec laquelle on l'exprime. On dirait que nous autres, on a comme une facilité d'expression, une clarté d'expression. On se bordera pas avec des niaiseries. N'importe qui, d'ailleurs, qui vient travailler sur des plateaux de télévision ici, même de cinéma, reviennent pas de la familiarité entre les gens. C'est un excellent climat de création ici. Et il serait vraiment temps que le gouvernement s'en rende compte. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On a beau leur dire, ils ne le réalisent pas. Puis c'est encore plus choquant de ce temps-là, parce qu'ils n'arrêtent pas de parler d'identité.